Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 16e épisode de Torréfaction, notre podcast hebdomadaire d'actu qu'on choisit en fonction de nos envies, hein, CAF.
Exactement, bonjour Fasc.
Bonjour CAF, ça va bien aujourd'hui?
Écoute, pas du tout, mais ça tombe bien, on va faire genre, on est au taquet et tout ça, j'ai dormi 4 heures, je suis explosé, mais...
C'est le running gag de ce podcast en fait, c'est qu'on le fait à chaque fois dans des conditions improbables.
Mais ce qui est bien, c'est qu'il faut prévenir les auditeurs, tu vois.
Ouais, et puis ce qui est bien, c'est que derrière, après moi je peux corriger tout ça avec un montage chirurgical pour enlever toutes nos hésitations et nos vannes ratées.
Ouais, mais on ne ment pas sur l'état des tauliers, tu vois.
Exactement.
Et les tauliers sont fatigués aujourd'hui.
Ouais, un petit peu. Mais on a quand même pas mal de choses à partager avec vous. On va commencer, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus parlé, tiens, de PUBG. PUBG, je sais jamais comment on dit. PUBG Invitational, c'est la première grosse LAN, en fait, autour du jeu PUBG. Ça se passe en ce moment à la Gamescom de Cologne.
Ouais.
Ça a commencé mercredi avec, si je ne dis pas de bêtises, des tournois en solo d'abord. Ensuite, il y a eu aujourd'hui on enregistre jeudi, donc hier pour vous, c'était les finales en mode duo. Et aujourd'hui, ça devrait être, si je ne dis pas de bêtises, les duos first person et les squads.
Nice.
Donc ça va être sympa. Alors toi, je sais que tu n'es pas un gros fan du mode first person.
J'y viens petit à petit, tu vois.
Je me souviens que t'as quand même beaucoup grogné au début.
Ça change le jeu
en fait.
Qui suis pas du tout malade avec les FPS en général, si tu veux, quand je dis malade vraiment physiquement, la vue en mode je ramasse les trucs par terre, je bouge la tête partout, etc. Mes premières games, j'étais un peu gerba, tu vois. Donc il y avait un truc bizarre avec la caméra. Mon fov était peut-être aussi un peu ambitieux, j'ai envie de dire.
C'est possible.
Mais je commence à me réchauffer un petit peu. Je trouve que le tournoi est plutôt bien organisé, sauf que l'observateur a du mal à tout suivre. Et quand j'ai vu la cabine de pilotage des différentes caméras, je rappelle qu'il y a 100 joueurs, et donc suivre les 100 joueurs, c'est un petit peu compliqué. Et ils ont fait des espèces de tableaux d'écran avec plein qui sont découpés en petits carrés pour suivre un max de joueurs. Alors c'est rigolo, ça fait très caméra de surveillance d'immeuble, mais pour le gars qui gère le switch d'une caméra à l'autre, c'est pas évident. En plus, j'ai pas l'impression qu'il connaisse le jeu à mort, donc il anticipe pas trop ce qui va se passer.
C'est une première.
C'est pas une première, attention, c'est une première de cette taille-là, mais il y a déjà eu un tournoi aux US.
C'est vrai.
Ouais, le streamer Anthony Comfan, que j'adore, avait gagné.
Autant pour moi.
Si je dis pas de bêtises. Mais alors, est-ce qu'ils avaient déjà eu en ligne autant de mecs d'un coup? Je ne sais pas, je pourrais pas répondre. Le tout, c'est que ça marche. Là, tu vois, les mecs sont un peu tous les uns sur les autres parce qu'il faut faire tenir 100 gugus sur le même plateau. C'est pas une compète de Rocket League.
C'est clair.
Donc, c'est impressionnant. En revanche, le spectacle est réel. Les gens sont accrochés à leur siège une fois que tu te mets bien dans la game. Parce que c'est ce qui fait tout le bonheur du jeu quand tu joues toi devant ton écran. Et à regarder, c'est assez passionnant. J'en vois qui couinaient un peu sur l'aspect e-sport du truc. Moi, je pense qu'au contraire, il y a un potentiel de malade. Et en tout cas, là, cette première compétition, avec tous les problèmes qu'elle peut avoir en termes de réalisation, elle est vraiment cool. Et en plus, ils ont trouvé deux commentateurs qui sont hyper bons.
Ouais, on en parlait tout à l'heure de cette critique qui a été faite au jeu. Bon, on peut le citer, c'est l'âme qui disait tout à l'heure qu'il trouvait que c'était pas très e-sport. Je pense que c'est parce que globalement là, ils ont pas les outils qui vont bien, quoi. Ils ont pas l'assistance. C'est clair que gérer 100 caméras pour un mec, ça doit être un petit peu compliqué.
Ouais.
Et donc forcément, on a des trucs parfois un petit peu anticlimatiques, comme on dit. Hein. On arrive à une fin de partie avec 3 mecs et on voit pas le dernier kill. Hein. C'est un peu gênant. mais bon, voilà. Je pense que c'est une question de maturité. C'est encore un jeu qui est en early access aussi. Moi, je crois que comme toi, le potentiel pour l'e-sport est réel, parce que c'est un jeu qui est très lisible, qui est assez posé en fait, finalement, sauf sur la fin.
Ouais,
ça
t'as
devient
le temps
très,
de commenter, ouais.
T'as le temps de commenter, puis surtout t'as le temps de comprendre ce qui se passe. Je regardais tout à l'heure les matchs de Quake, c'est Quake Champions, le nouveau qui va sortir.
Ouais.
Donc il y a la Quake Con, a priori en ce moment, en parallèle de la Gamescom. Enfin, en tout cas, ils étaient sur place pour faire des tournois, et pour quelqu'un qui connaît absolument pas le jeu, c'est illisible, ça va beaucoup trop vite, tu sais pas qui est qui, tu comprends pas bien ce qui se passe, et pour commenter, c'est encore voire pire. Je trouve que PUBG, pour le coup, a vraiment un potentiel. On a le temps de se poser avec sa bière au début du match. C'est posé.
C'est le tennis du FPS. T'as le temps d'analyser le match. Les mecs sont cachés derrière leur caisse. Et c'est normal, tu vois. T'es pas en train de râler. Et ce qui est marrant, plus, c'est qu'ils ont trouvé la nana qui commente en anglais. Ouais. Elle est hyper drôle parce qu'elle blast. Dès qu'il y a des mecs qui sont en train de se planquer et qui sont un peu frileux du combat, elle blast, elle est vanne et elle me fait beaucoup rire. Donc j'espère qu'ils vont la garder pour la suite parce qu'elle est vraiment très très forte, quoi.
Ouais, on en parlait tout à l'heure sur le Discord de Geekzone, hein. C'est vraiment eux qui font le taf pour le moment. La réelle suit pas trop, mais on leur pardonne. Mais en revanche, au niveau des commentaires, ils sont vraiment à fond et ça, c'est plutôt cool. Ça met vraiment bien dans l'ambiance.
Ouais. Et puis alors, je voulais enchaîner juste pour annoncer qu'on a un tout petit peu plus d'infos sur les prochaines maps de PUBG. On sait qu'il y en a une. Alors, il y en a une qui avait été vaguement montrée, mais celle-là, pour l'instant, il la planque. La seule qui a été un petit peu plus dévoilée, c'est la map désertique, qui sera plus petite que celle qu'on a actuellement. Parce qu'en fait, ça va être ambiance Urban Warfare, donc les guerres dans les vieux bâtiments, etc. Donc beaucoup plus vertical, avec prise de toit, combat dans tous les coins de rue. Imaginez la zone de l'école, mais à l'échelle d'une carte. Ça va être assez violent, je pense. Ça va être aussi le bonheur du campeur, hein. Mais il faudra sortir de votre immeuble à un moment, les mecs. Rêvez pas trop. J'ai hâte de tester ça. On n'a pas de date, en revanche, sur la disponibilité. Donc patience.
C'est ce qui est intéressant avec PUBG. On l'a vu déjà avec l'ajout du mode Force personne, c'est que justement, je pense qu'en changeant les maps, tu peux aussi complètement changer le jeu et changer les stratégies, et je trouve ça assez cool, ça permet de... Enfin, ça a une replayability value assez
c'est
folle.
C'est beau quand tu parles.
Oui, hein, t'as vu, c'est je l'ai dit. Donc, rappel pour ceux qui veulent suivre l'Invitational, on est donc vendredi, donc là, normalement, ça commence ce matin à... C'est quoi, c'est 9h, heure de Cologne, jusque 14h30, j'espère que c'est les heures européennes, faudrait que je vérifie. Enfin, je vous filerai tous les trucs, donc aujourd'hui, c'est le duo FPP, donc en first person, et samedi, donc ce sera la Squad Invitational Main Event, avec donc des équipes de 4 qui s'affrontent, et j'imagine que ce sera sur 3 matchs, comme ça a été le cas jusqu'ici. Toutes les infos, donc, dans le link qui va bien, dans le billet qui accompagne ce podcast, et on va parler d'un autre FPS qui était un peu, qui avait un peu disparu des radars depuis sa sortie, c'est Brink.
Alors, il avait pas disparu des radars, Brink. Brink, il était, tu vois, enterré avec une grosse pelle, la tombe, genre RIP, salut, bisous. C'était un FPS assez rigolo avec un système de classe,
ouais.
Un système d'animation hyper sympa. C'était un design que moi je trouvais très classe, mais qui a beaucoup clivé, comme on dit.
C'était du cel shading, c'est ça, hein?
Il y avait un côté cel shading assez BD qui était, enfin, qui n'a pas plu à tout le monde. Je me rappelle que j'avais super accroché la bande annonce avec un espèce de scénario où finalement il reste qu'une partie de l'humanité qui vit un peu dans l'opulence et le luxe pendant que tout le monde crève à côté, un truc d'anticipation classique, j'ai envie de dire. Je me rappelle plus exactement des détails, mais tu te battais dans une espèce de zone qui s'appelait The Ark et t'essayais un peu de rendre une des qualités de vie sympa à la pauvre plèbe. Et puis donc, on était 12 à y jouer et c'est mort.
On l'avait comparé un peu à Team Fortress 2 à l'époque, à raison ou pas?
Écoute, pour les 12 mecs qui ont joué, peut-être. Non, le problème, c'est que ça n'a jamais accroché. Le gameplay était intéressant, mais un peu brouillon. Il y avait des trucs qui fonctionnaient pas forcément. L'équilibrage des classes était peut-être pas non plus parfait.
D'accord.
Bon, bref, ça n'a pas pris. La mayonnaise n'a pas pris. Peut-être que le timing était pourri. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui ont joué, mais il est mort très, très vite. Moi, j'avais créé une petite section juste pour lui dans Steam. Et c'était Deg. C'est la section Deg de Steam. Il y avait que lui dedans. Et j'étais vraiment Deg, pour le coup, qu'il soit mort aussi vite.
Et ben voilà, donc raison de plus pour se réjouir de sa résurrection six ans plus tard. Ouais,
alors attention, en plus, j'ai vu des news passer en disant que c'est un free-to-play, etc. Il y a 3 trucs à acheter dans le jeu. En fait, il est gratuit sur PC, sur Steam, .bar. Vous le téléchargez, vous y jouez, basta. Il y a plusieurs milliers de personnes qui ont repopé hier pour du coup tester la bestiole, enfin dans la semaine, pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et il n'y a pas vraiment un shop d'arnaqueurs derrière. On sait même, enfin, c'est plutôt un cadeau pour la communauté plus qu'autre chose.
Ouais, ils ont pas changé le jeu en fait, hein.
Pas du tout. Voilà. Et c'est gratos pour l'éditeur puisque finalement c'est vous en jouant qui spawnez les instances de serveur. Les gens se connectent à l'ancienne chez vous quand vous spawnez le serveur, donc ça leur coûte zéro. Il y a pas de dépenses à côté. Voilà, je sais pas pourquoi ils font ça maintenant. Très bien, est-ce qu'il y a un Brink 2 qui arrive? LOL. En tout cas, écoutez, c'est à prendre. En revanche, à noter que les versions console, elles sont pas gratuites. Elles sont à genre même 20 balles encore. Et que ça, du coup, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt.
Ok. Donc Brink en gratos sur Steam, vous allez le récupérer et puis ce sera peut-être l'occasion de redonner une seconde vie à ce FPS. A priori, très bien. Enfin, t'es pas le seul à en parler. Hein. Pipo Mantis était aussi heureux de savoir qu'il était passé en gratos hein, parce que c'était un de ses FPS préférés.
Ouais, on a pleuré sur nos épaules respectives quand les gens venaient pas jouer avec nous. On était très tristes.
Alors un autre jeu auquel beaucoup de gens jouent en revanche, là c'est Rocket League. Toi le premier, je sais plus combien d'heures tu as sur le.
Je ne veux pas le dire. Je vois pas de quoi tu parles.
Il y a du neuf. Il y a une version Switch qui arrive.
Alors il y a une version Switch qui a été annoncée à l'E3 qui débarque. C'est la nouveauté. Ce qui vient d'être annoncé, c'est que la version Switch aura des voitures exclusives à la version Switch.
Surprenant.
Ah bah oui. Et puis je vous le donne en mille. Ça sera des trucs liés à des licences Nintendo.
Non.
Donc ils sortent une bagnole Mario, une bagnole Luigi. Je vous laisse découvrir les couleurs de base. Peut-être le rouge et le vert, je sais pas. Et une voiture qui est vachement plus classe, la plus classe du lot, c'est la voiture Samus, donc de Metroid, qui est une espèce de truc un peu chromé qui nous sort tout droit de Tron, tu vois, et qui est vraiment, vraiment pas mal. Évidemment, ces bagnoles, on pourra les avoir que sur la version Switch, donc désolé. En revanche, vous pourrez les voir, j'imagine, dans les versions PC, puisqu'il y aura du crossplay entre la Xbox One, Steam et la Switch. Toujours pas de PS4 à l'horizon, merci Sony. Et du coup, j'imagine que quand on est sur les autres plateformes, si on joue contre des mecs Switch qui ont ces bagnoles-là, on les verra. En tout cas, ça me paraît logique. Et le gros avantage de cette version Switch, c'est qu'on pourra jouer en Wi-Fi local à plusieurs.
Ah.
Donc là, je pense qu'on commence à rentrer dans le territoire du « il va falloir que je rachète une Switch, ça ne m'arrange pas ». J'avais vendu la mienne. Mais tu vois, ça me fait un peu chier de racheter des bagnoles et de redébloquer des trucs sur la version Switch, mais là, il y a un intérêt, quoi.
C'est ce que j'allais dire, il y a un crossplay donc entre les différentes consoles, mais est-ce que ça veut dire que ton compte sur un support est le même sur un autre ou tu dois recommencer?
Je ne pense pas, mais j'avoue que j'ai pas creusé, mais ça serait génial. J'avoue que ça me ferait très plaisir. Et là, j'avoue que Nintendo, ça leur ferait plaisir aussi, parce que ça ferait une Switch de plus à vendre.
Voilà, donc un jeu qui est encore beaucoup beaucoup joué, contrairement à notre ami Brink, un Rocket League sur Switch bientôt avec des nouvelles skins spéciales Nintendo. Et puis on va reparler de Vainglory, dont on avait déjà parlé, le MOBA pour mobile, qui reçoit un mode de jeu supplémentaire.
Exactement, parce que là du coup on a beaucoup parlé de Arena of Valor, qui est donc le truc qui est un peu une mini drogue, on peut le dire. On est pas mal de Geekzone à y jouer soi-disant aux toilettes. Je fais les guillemets avec mes doigts comme d'habitude, mes fameuses guillemets. Et le problème, c'est que Vainglory, eux, ils sont historiquement depuis 2014 sur un mode de jeu de 3v3. Et vous savez tous que le MOBA, c'est 5v5, le mode glorieux de Dota, Dota 2, League of Legends et compagnie. Et donc Arena of Valor débarque sur mobile et explique qu'on peut tout à fait faire du 5v5. Et ça fait pas rire les mecs de Vainglory qui se sont dit merde, nous on a du 3v3, on a l'air un peu minable. Et là, ils annoncent une nouvelle carte avec un mode 5v5.
Nice.
Mais ils ont réfléchi, du coup, ils ont pas copié la carte à la disposition classique qui est héritée de Dota 1, avec les mecs en bas à gauche et en haut à droite. Parce que finalement, et c'est assez intelligent, sur un écran de mobile en largeur.
Ouais, ça marche pas, ouais.
On voit rien, parce que finalement, on joue sur la hauteur vachement souvent, et sur la hauteur, elle est pas énorme sur ce genre d'écran, et c'est juste nul. Et là, ils ont remodifié un petit peu la carte pour faire en sorte que les bases soient toujours à droite et à gauche. Et on joue vraiment beaucoup plus sur la largeur, ce qui est assez malin. Je vous mettrai un lien de la vidéo d'explication dans le billet qui vient avec ce podcast pour que vous voyez la gueule que ça a. Pour l'instant, elle n'est pas texturée, c'est encore assez brut de fonderie ce qu'il montre, mais on voit la forme de la carte, on comprend ce qu'ils veulent faire. Et j'imagine que du coup, ça va être assez intéressant à jouer. En tout cas, le Vainglory continue son petit bonhomme de chemin. Et même à leur petite échelle, ils font des tournois, le jeu fonctionne. Ils sont un petit peu violents sur le côté free-to-play, malheureusement, à mon goût. Mais techniquement, c'est intéressant. Donc, si vous voulez essayer un truc, voterez avec votre iPad, parce que à mon avis, c'est la meilleure plateforme pour y jouer. Vous pouvez le télécharger et essayer ça très facilement.
Bon, c'est plutôt cool, ça. Un peu plus de... Enfin, ils sont réactifs par rapport aux autres, à la concurrence.
Ça fait 3 ans. Hein. Le truc est sorti en 2014. Ils sont toujours là. Ils sont toujours bon pied bon oeil à sortir des héros, des skins et tout. Bel effort.
Vainglory, donc. On va passer du côté des apps et je voulais parler d'Hypercard, l'ancêtre, comme on dit, peut-être de manière un peu grossière du HTML. Hein. Il a fêté ses 30 ans et figure-toi que moi, c'est un soft que j'avais un peu zappé parce que j'ai pas de culture Mac. Je suis pas passé par les ordinateurs d'Apple, enfin, de très loin quand j'étais à l'université où c'était un peu tout ce qu'on avait. Mmh. Mais donc, c'est un soft qui a été conçu en 87 par Apple.
Avant-hier, donc.
Ouais, voilà, ça date. qui se voulait, en fait, être une sorte de base de données relationnelle où tu pouvais mélanger à la fois des du texte, des images, des vidéos, du son. Enfin, tu pouvais relier ces éléments, et c'était là où était la vraie nouveauté. Tu pouvais relier ces éléments entre eux avec des, ce qu'on appelle, on appellerait aujourd'hui des liens hypertextes. Donc, comme on peut le voir aujourd'hui partout sur le web, à l'époque, c'était assez nouveau. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, c'est un soft, donc, qui a été développé par Bill Atkinson. C'est un monsieur que tu connais bien, toi, Caf. Hein.
Bah, c'est le monsieur qui a fait Quick Draw. Enfin, c'est un des grands, grands monsieur du développement de macOS pendant des années, qui est une figure inévitable de la team originelle du Mac, quoi.
Donc c'est pas n'importe qui chez Apple, et à l'époque ça avait la presse en tout cas avait été assez dubitatif par rapport à l'annonce, que Apple avait annoncé sortir donc un logiciel de base de données de gestion de l'information qui avait été présenté par la presse comme inhabituel, voilà, pas vraiment précurseur sur le coup.
Bah, surtout en 1987, c'est ça, ouais. Surtout les mecs comprenaient pas à quoi ça servait, quoi.
Ouais, c'est clair. Et le truc a bien marché, mais le problème c'est qu'Apple va pas vraiment réaliser ce qu'ils ont entre les mains, et qu'en plus c'est un projet gratuit chez eux, donc c'est pas quelque chose qui a une aura particulière. Ils vont finir par perdre beaucoup de terrain face à la concurrence qui va développer ses propres solutions, et notamment j'en parlais dans le papier que j'ai fait sur Geekzone Outerwear de Macromedia, mais il n'y a pas que. Et finalement, ils vont disparaître complètement. Ils vont se rendre compte un peu sur la fin qu'ils ont loupé un truc, quand le HTML va commencer à prendre de l'ampleur et qu'on va commencer à comprendre comment peut fonctionner le World Wide Web avec justement les liens hypertextes. Ils vont s'en rendre compte un peu tard, et ça va être malheureusement le champ du cygne pour HyperCard. C'est rigolo parce que là, les mecs d'archive.org ont mis en ligne il y a pas longtemps ce qu'on appelle les stacks. Donc c'est tu me disais en français, c'est les piles, c'est ça?
C'est les piles, ouais, tout bêtement.
Donc c'est les softs en fait, entre guillemets, qui étaient développés avec l'application, qui étaient souvent des espèces de trucs interactifs, des bases de données interactives dans lesquelles on pouvait par exemple consulter toutes les infos sur la série Seinfeld. Il y a quelques petits jeux aussi. Il y a notamment sur archive.org un jeu de toucher coulé en HyperCard. Et puis il y a aussi des trucs plus étranges, comme je le disais dans le papier, hein, le espèce de base de données de toutes les activités sexuelles illégales répertoriées par État américain. Donc comme ça, si vous voyagez à travers les États-Unis, vous savez exactement ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire.
Ah non, ce soir, chérie, ça c'est pas possible.
Et tu m'en parlais tout à l'heure en antenne en préparant l'émission. Il y a aussi un autre jeu qu'on connaît bien qui a apparemment été développé en HyperCard aussi.
Ouais, c'est Myst. Et j'avais complètement zappé que Myst avait été fait avec ça. C'est un de nos utilisateurs adorés qui nous rappelait ça dans le forum. Et très honnêtement, j'avais vraiment complètement oublié ce détail. Mais c'est vrai que y avait des éducatifs, il y avait des jeux très simples avec ça, puisque Myst, rappelez-vous, hein, c'était droite, gauche, une énigme, un truc à cliquer, ça vous emmenait vers une autre image finalement, une animation, ça déclenchait un truc assez basique, et du coup c'était complètement faisable avec HyperCard, et je savais pas du tout que ça avait été fait avec ça.
Voilà, et comme d'habitude, du très très bon boulot des gars d'archive.org, on ne le dira jamais assez, on en parle souvent sur Geekzone, ils partent dans tous les sens, hein, ils font autant des compilations musicales que des choses en rapport avec l'informatique, mais surtout ils ont un site qui, même s'il est pas très joli, est très fonctionnel, puisque pour chaque HyperCard qu'ils ont listé sur leur page, tu peux la lancer en fait simplement avec un émulateur Mac qui va se lancer dans ton browser, et tu peux tester le truc directement dans ton browser sans avoir à passer par un soft externe ou avoir à installer des émulateurs, ce qui peut parfois s'avérer assez compliqué, surtout avec la gestion des ROM. Donc voilà, on voulait saluer au passage le boulot des gens d'archive.org qui est assez extraordinaire. Je sais pas comment ces mecs financent leur site en fait, mais le taf qu'ils font est assez fou.
Ça tue.
Voilà, donc HyperCard, si comme moi vous étiez passé un peu à côté de cet ancêtre du HTML, quand même un jalon dans l'histoire de l'informatique de manière générale, et qui fête donc cette année ses 30 ans, allez jeter un petit coup d'œil au papier que j'ai fait cette semaine sur GZ, et puis à l'archive justement d'archive.org. On va passer à tout à fait autre chose avec les backups et CrashPlan qui arrêtent de s'occuper de ses clients individuels en tout cas.
Ouais, on en a parlé parce que alors là on se change complètement d'univers, mais CrashPlan c'est une solution qui est hyper connue de backup de machines personnelles.
Ouais, que j'utilisais au début d'ailleurs.
Voilà, qui était pas très cher, qui est relativement efficace, même si elle est, moi je la trouvais lente et je détestais le client en Java, je crois.
Ah, le client était tanné, ça c'est sûr.
Voilà. Et du coup, là ils se sont fait des potes puisqu'ils ont annoncé que salut, quand on va renouveler votre abonnement, en fait vous dégagez parce qu'on a décidé que on ne vendait plus aux clients, qui ne se rapportent pas assez d'argent, pour être très clair, par rapport à ce que ça prend en termes de place de data. Donc en termes de communication, ça s'est pas très bien passé, les gens ne sont pas très contents, donc pour leur marque, je ne suis pas sûr que ça soit un move hyper malin. Du coup, ça a déclenché un petit peu une vague de panique entre guillemets avec tout le monde qui s'est dit ok super, mais moi j'ai toujours besoin de mes backups, qu'est-ce que je fais, je vais chez qui, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution alternative aujourd'hui. Sur le forum de Geekzone, il y a un grand thread où on a référencé plein d'alternatives. Moi, je retiens deux trucs qui sont intéressants. D'une part, il y a ARQ, qui est un soft de backup relativement abordable, qui permet en fait de backuper automatiquement avec gestion des du chiffrage, etc. sur un des supports genre Amazon Drive par exemple, qui est encore aujourd'hui dispo en illimité. Je ne sais pas si ça va durer. Je sais que dans certains pays c'est normalement la fin. Ça a été annoncé par Amazon, mais chez nous on n'a pas vraiment d'infos. Donc bon, on joue un peu avec le feu, mais on va dire que c'est possible. Mais si vous n'avez pas besoin de backuper des milliards de trucs, c'est complètement jouable. Le soft doit coûter 50 ou 60 balles, donc c'est pas non plus la ruine. Et vous avez évidemment le concurrent historique de CrashPlan qui est BlackBlaze, qui est toujours disponible pour des tarifs assez raisonnables. Sauf que moi j'ai jamais été fan de leur système de backup qui se veut ultra simple. Oui, nous on backup tout et vous allez voir, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête et tout. Ouais, mais sur Geekzone, ça c'est pas possible. On veut pouvoir choisir nos petits folders, nos petits trucs du NAS. On est un peu des casse-noisettes, hein, il faut le dire.
Oui, voilà. On assume.
Et donc même si des gens comme John Gruber, le monsieur qui a créé le Markdown, est un vraiment fervent défenseur de cette solution, j'ai envie de vous dire qu'il faut regarder, comme on l'a dit sur notre forum, une autre solution, mais toujours chez BlackBlaze, mais pas leur truc de base, pas leur truc de backup de base, mais un truc qui s'appelle l'offre B2 Cloud, qui permet d'avoir beaucoup plus de souplesse et qui s'interface en fait avec des softs, genre Transmit 5 sur Mac, pour mettre en place votre solution de backup et faire exactement ce que vous voulez faire, et pas juste un truc one button pour les neuneux de l'informatique. Voilà.
L'occasion de rappeler aussi qu'il y a un très bon soft sur Windows qui s'appelle ThinkBack, qui existe en plusieurs déclinaisons selon vos besoins et qui est justement compatible avec ces supports de stockage en ligne comme Amazon, etc. Donc si jamais vous cherchez une solution logicielle plus qu'une solution matérielle, comme c'est mon cas, en fait moi je backup tout sur mon serveur dédié, ce qui est peut-être pas la solution la plus idéale en
Non,
sécurité.
Mais ça, on va en parler tout à l'heure.
Je vais me faire gronder, je le sens.
Exactement.
On va terminer du côté des apps avec un nouveau look pour Plex.
Ouais, on a testé ça juste avant d'enregistrer l'émission, parce que j'ai reçu le mail, comme si vous êtes abonné Plex, vous l'avez reçu en même temps que moi, j'imagine. Mais du coup, parlons de cette nouvelle interface de Plex qui débarque. Plex, c'est quoi ? C'est un lecteur de médias pour tous vos films de vacances que vous n'avez pas du tout récupéré sur Internet, qui permet de vous faire une librairie à la Netflix tranquillement avec votre propre collection et vos propres outils. Le soft avait évolué, mais assez vite, sur des interfaces un petit peu bizarres à l'époque de la Xbox One particulièrement, où ils avaient mis des gros posters, une nouvelle façon de naviguer dans les différents menus qui étaient... certes joli au premier abord, mais absolument pas pratique. Voilà. Et en plus, qui n'est pas la même en fonction du player que vous utilisez, ce qui pour un soft qui est disponible sur toute une ribambelle de plateformes n'était pas très malin.
Un peu contre-intuitif.
Exactement. Donc là, ils sont depuis un moment, ils ont engagé des nouveaux spécialistes des UX et compagnie pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et on a là, si vous êtes abonné Plex Pass, donc premium, si vous payez votre abonnement tous les mois ou à vie comme moi, si vous l'avez acheté il y a des années quand c'était dispo, eh bien, on a accès à un nouveau Plex Media Player qui revoit de fond en comble cette interface pour gérer plus facilement les différents serveurs, parce qu'on peut se connecter chez les serveurs des potes aussi. Donc, si vous avez un copain qui a des collections que vous n'avez pas, genre, ah, putain, t'as plein de dessins animés, bim, pas besoin de les télécharger, vous pouvez les mater directement de chez lui. C'est mieux s'il a la fibre, évidemment.
On va se parler après l'émission.
Voilà, exactement.
Je vais peut-être enfin me mettre à Plex. Tu viens de trouver l'argument qui pourrait me faire passer
à Plex. Putain, mais t'avais toujours pas compris ça, j'ai mal. Et du coup, ce truc-là va permettre d'avoir directement accès beaucoup plus facilement à tous les serveurs que vous avez dans votre liste, ce qui n'était pas le cas du tout avant. Il fallait changer de serveur, se reconnecter, etc. C'était un peu casse-bonbon. Et là, c'est beaucoup plus facile. Après, les menus, en termes de... discoverability.
Nice. Mais tu t'y mets aussi,
tu vois. C'est pas complètement intuitif. Là, sur les premiers essais, j'étais un petit peu paumé, mais en même temps, c'est normal, je venais de l'installer. Mais ça sera pas pire que l'ancienne version. Donc, en tout cas, c'est cool de voir que ça continue d'évoluer. Et, comme le marché cartonne pour eux, ils ont des clients pro partout, etc. Ils sont vraiment maintenant, très bien implanté, très bien installé pour continuer à faire évoluer leur soft.
Voilà, Plex. Donc, si vous n'avez pas encore essayé, faites-le. Moi, je vais m'y remettre. C'est vrai que j'avais pas d'intérêt à le faire parce que Plex est vraiment orienté serveur avec distribution sur plein de devices et à ce niveau-là, il est vraiment imbattable. Mais comme moi, j'ai vraiment un seul PC qui fait tout, à la fois pour jouer, pour travailler et pour regarder mes films, j'avais pas vraiment besoin de cette notion de serveur. En revanche, le fait de pouvoir venir te piquer tes films à toi, ça m'intéresse. Du coup, je pense qu'on va se parler après.
Tu m'étonnes.
Et puisqu'on parle cinéma, on va rester sur le cinéma, on va parler de ce qui se passe chez... Ouais, on va se parler de ce qui se passe chez Warner DC en ce moment. On comprend pas très bien. On s'était déjà moqué de Sony et de ses nouvelles franchises Spider-Man qui sont pas vraiment dans l'univers de Marvel, mais un peu quand même. Bref, c'était pas très clair. DC Warner, je sais pas ce qu'ils foutent en ce moment. Donc là, ils viennent d'annoncer un spin-off, accroche-toi bien, du Joker. Alors, ce serait pas un spin-off, ça serait une origin story, plus exactement.
Oui, parce que spin-off de quoi? Juste le oui, retiré voilà, de Batman pour le...
On reprend le perso du Joker. On raconte son origin story, alors a priori dans les années 80-90, avec d'autres acteurs que donc les acteurs comme Jared Leto qui l'a incarné récemment.
Oh, zut.
Voilà. Alors le truc un peu bizarre, c'est que donc d'une part, ça n'a rien à voir a priori avec ce que DC Warner essaie de faire en ce moment, donc c'est-à-dire un univers connecté comme chez Marvel. Mais en plus, pour le coup, l'association des personnes qui vont travailler sur le projet est assez particulière, parce qu'on retrouve à la production un certain Martin Scorsese, qui n'est pas n'importe qui quand même, à la réalisation un certain Todd Phillips. Alors Todd Phillips, les gens connaissent peut-être moins bien, mais c'est le monsieur qui est responsable de la franchise Hangover, qui a fait aussi Starsky Hutch, donc qui est un peu spécialiste de cette vague de comédie assez vulgose, bas du front, j'ai envie de dire, qui cartonne aux États-Unis pour le moment. Donc l'association est vraiment très curieuse. Et puis surtout, on comprend pas ce que vient faire ce film dans la volonté de DC de tout centraliser, justement, puisque parallèlement à ça, il y a toujours, je rappelle, un film avec le Joker et Harley Quinn qui est prévu, lui, avec Jared Leto, donc l'acteur qui avait incarné le Joker dans Suicide Squad. Et le film qui devait normalement raconter une histoire de Harley Quinn, qui était Gotham City Sirens, lui, pour le moment annulé et remplacé donc par cet autre film sur le Joker. Donc ça devient très très compliqué. On a un peu peur que les gens se perdent en route. Et puis surtout, ça n'a aucun intérêt. Mais cela dit, je suis curieux de l'association Todd Phillips, Martin Scorsese. Je suis pas sûr que ça donne quelque chose de convaincant. Mais
non, parce que risque de me faire insulter, tu vois, un film sur Harley Quinn incarné par Margot Robbie, je vois une sorte d'intérêt, comment dirais-je, tu vois, artistique.
Et ouais, tout à fait. Non, mais pour être tout à fait franc, en plus, moi, ce que j'en retire de Suicide Squad, c'est que c'est elle qui a volé la vedette. Elle était le seul perso vraiment crédible et intéressant, et puis la seule actrice qui avait l'air de savoir ce qu'elle faisait.
C'était pas Jared Leto, ça c'est sûr.
Ça c'est sûr. Donc voilà, c'est très bizarre ce qui se passe en ce moment chez Warner. Quand on met ça en parallèle avec les annonces récentes concernant le film Batman, donc je rappelle qu'il y a un film Batman avec Ben Affleck, qui est donc le Batman de Justice League, de tous les, de Batman versus Superman, et qu'en fait ce Batman ne serait pas intégré dans l'univers qui est en ce moment créé chez DC, donc ce serait un film à part avec le même acteur. Ça devient vraiment très très compliqué.
Un acteur qui ne veut pas être là,
qui en plus ne veut pas être là. Donc on se demandait justement si c'était pas un début de préparation du public à l'idée qu'en fait Affleck va complètement se barrer du projet. On rappelle qu'il devait le réaliser et l'écrire, finalement il ne fera plus que jouer le rôle de Batman, et a priori il serait plus très partant pour la suite, donc ce serait son dernier film chez DC. Donc je pense que ça va être la panique chez DC et chez Warner en ce moment, avec des franchises qui se multiplient en parallèle, qui ont plus de rapport entre elles, et des acteurs qui décident de quitter le navire. Donc c'est très très inquiétant. Voilà, je voulais en parler parce que c'est quand même un peu n'importe quoi, et je trouvais que ça valait la peine de faire une petite mention de ce origin story pour le Joker qu'on attend, mais plus par curiosité qu'autre chose. Et ça va être l'heure de faire ton rant, mon cher Jean-Pierre Keff.
Ah, chouette alors.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Voilà, on en parlait tout à l'heure, j'ai failli me faire taper sur les doigts, et je pense que ça va être maintenant. qu'est-ce qui t'inquiète avec les backups, là? Qu'est-ce qui ne va pas?
Alors, en fait, ce qui me fait marrer, c'est que là, sur l'histoire avec Crash Plant, tu t'aperçois que finalement, il y a quand même plein de gens qui se sentent pas concernés, parce que le backup, c'est pas grave. On s'en occupe pas. C'est chiant à faire et à mettre en place une solution de backup. C'est vrai que ça prend du temps et c'est pénible. Et les gens se disent, mais c'est pas grave, mon disque dur, il lui arrivera rien. Alors les mecs, je vous arrête tout de suite. Quelle que soit la marque, quel que soit le type de machine que vous avez, la question c'est pas de savoir si un disque dur va crever, mais quand il va crever.
C'est ça.
Donc arrêtez de vous dire que vous êtes en sécurité, arrêtez de vous dire que comme vous avez synchronisé 2-3 trucs sur Dropbox, vous êtes safe. Vous êtes peut-être plus safe, mais une vraie solution de backup, si vous avez vraiment des données intéressantes, genre une thèse au hasard, enfin c'est des situations que j'ai vécues avec des gens en pleurs chez moi, comment je vais faire? Ouais les mecs, si vous avez des trucs importants, backupez. Et quand je dis backupez, c'est une solution de backup, ça se fait pas dans le même appartement ou la même maison par exemple. Parce que si la maison crame ou s'il y a un vol, bah le backup il disparaît avec, donc c'est pas vraiment malin. L'intérêt d'avoir un backup sur le cloud, c'est d'avoir une copie de vos data qui soit loin de chez vous et donc en sécurité ailleurs, et qui est gérée par des professionnels. Ça aide, ça mange pas de pain. Alors que bah si vous copiez ça par exemple sur des disques durs que vous rangez dans votre armoire à dorer en bois, ça va pas bien se passer en cas de vrai problème déjà. Et ensuite, il faut pas oublier qu'un disque dur, même stocké dans une armoire, on peut avoir des surprises comme on en a avec des laserdiscs ou des CD qu'on a stockés et qui, d'un coup, 10 ans après, 15 ans après, quand on les ressort, c'est tiens, c'est bizarre, j'arrive pas à le lire.
C'est généralement quand on veut faire un restore que ça se passe.
C'est ça, quand on se dit tiens, ce truc-là, je voulais vraiment le... Ah bah non, finalement.
Ben voilà.
Donc, je sais pas, vous avez scanné toutes vos photos d'enfance pendant 1500 ans et vous les avez stockées sur un CDR fantastique. Eh ben génial, vous allez voir que le CDR, eh ben déjà il marche pas, vous l'avez peut-être paumé, etc. Donc maintenant on a des solutions sur le net qui fonctionnent vachement bien, utilisez-les. Et je vais faire juste un parallèle avec les smartphones, parce que justement les gens à qui j'en parle, souvent ils ont une réaction du « Oh là là, mais faut payer !» Mais oui, bande de... il faut payer. Si t'as un iPhone et que tu lâches 1 euro par mois à Apple, t'as 50 gigas sur iCloud. C'est pas énorme. Mais ça va te permettre de sauver tout ton iPhone sans te prendre la tête directement dès que tu le branches, dès qu'il dort la nuit sur iCloud. Et voilà, fini, on s'en occupe plus jamais. Et pourquoi je parle de ça? Parce que moi, je gère des gens qui ont des PME, des TPE, que j'ai fait passer tout ce petit monde sur iPhone pour être peinard. Et généralement, une à deux fois par an, je vais avoir un appel genre « Ah bah tu vas rire, mon téléphone, il est tombé dans l'eau. » Enfin, généralement, le ton est pas le même. Hein, c'est « Putain, je suis tellement dans la merde, j'ai perdu mon iPhone !» Bah ouais, donc dans ces cas-là, bah il va se passer un truc très simple. Soit ils arrivent à le faire réparer et tout ça, mais ça, on s'en fiche, hein, d'autres problèmes. Bah, sinon, tu vas en racheter un si t'as marché dessus. Hein. Et tu rentres tes codes iCloud, et là, magie, tu regardes tout réapparaître, même les icônes des applications sont au bon endroit, ça remet les photos, etc. Et hop, on n'a rien perdu. Et là, quand je dis on n'a rien perdu, je parle de gens qui sont pas super doués en informatique et qui vont prendre des photos depuis que leur gamin est né, par exemple, mais qui ont jamais fait un backup parce qu'ils savent même pas ce que c'est. Donc quand tu as mis en place ce genre de solution, tu as une tranquillité d'esprit qui vaut de l'or. Et donc 1 euro par mois, tu les lâches. Trouver des solutions, il y en a pour Android, il y en a pour tous les systèmes qui existent. Donc mettez-le en place aussi pour vos ordinateurs si vous en avez besoin. Mettez-les en place autour de vous si vous savez ce que vous faites, mais pas tellement la famille. Hein. Je pense qu'on a tous vécu ça. Donc c'est important. Backup. Voilà, c'est le mantra. Backup, backup, backup. Le deuxième mantra classique, c'est la synchro. C'est pas du backup. C'est pas la même chose. Donc voilà, faites attention à ça. Mettez en place ce genre de truc et un jour vous vous remercierez de l'avoir fait. Vous mettrez une petite tape dans le dos et si c'est pas vous, ça sera des potes de la famille, des copains, whatever. Mais il faut éduquer le bon peuple. L'informatique n'est pas infaillible. On le sait que trop bien.
Voilà, tu remarqueras que je ne paye pas d'abonnement à un service dans le cloud, mais que j'ai quand même la présence d'esprit au moins déjà de délocaliser mes backups, ce qui est quand même, enfin, moi, me semble être le béaba. Mais je sais, après, derrière, j'ai pas un truc sécurisé.
Ouais, mais tu payes ton propre serveur et t'as tes propres trucs, t'as tes propres morceaux de musique que tu sais que tu veux pas perdre, etc. Donc, t'es déjà largement au-dessus de la masse.
Ouais, c'est-à-dire qu'il faut vraiment une pure coïncidence de lose pour que je perds tout d'un coup. Mais voilà.
Comment dirais-je ? C'est quoi déjà ton deuxième prénom ? Ah ouais, c'est ça. Ouais. Il faut que tu fasses attention, toi.
Bref, backupé, on ne le dira jamais assez, le nombre de gens qu'on voit passer tous les jours et qui râlent parce qu'ils ont perdu, comme tu disais, leur thèse ou leur photo de famille. C'est quand même simple. Et puis aujourd'hui, avec les transferts, les taux de transfert qu'on a, le prix du cloud, vraiment, ça vaut le coup de lâcher 1 ou 2 balles tous les mois, quoi.
Bah, rencardez-vous, il y a un thread, on en parle sur Geekzone. On est là pour ça.
Voilà. Viendez nous voir. Et c'est déjà la fin de ce 16e épisode de Torréfaction. Bah ça va, ça a été finalement, on s'en est pas mal sorti. 35
ouais,
enregistrements quand même.
35, tu vois, on a tout donné, mais maintenant je vais aller mourir sur mon canapé.
Voilà, puis on va pas traîner donc. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'actu dans Torréfaction. Et puis d'ici là, bon week-end, bon repos, CAF.
Bon week-end, à toi aussi.
Ciao.
Ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du theorycrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers.
Oh, Junior, you're gonna break your old man's heart.
If I have to.
Nobody has to break anything.
Clearly, you've never made an omelet.
You beat me by 1 second.